poésie et ainsi de suite par Manu Farine.
Phrases musclées, piqûres de testostérone et corps conquête, aujourd'hui roman culturiste avec le poète Victor Malzac.
Un homme du Nord, un homme d'une très grande force, un conquérant qui deviendra roi un jour de ses propres mains. Un homme qui écrasera les serpents de la terre.
Qu'est-ce que tu as dit? Les serpents de la terre?
Victor Malzac, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, à toutes et à tous, pour vous accueillir, j'allais dire évidemment, un court extrait de Conan le Barbare, 1982, avec dans le rôle titre Schwarzenegger, force, conquête, peau de bête et dialogue économe, on va dire. C'est ce film-là et ces muscles-là que rencontre un jour le narrateur de Créatine, le roman que vous signez chez Gallimard dans la collection Scribe. À partir de là, tout se met à gonfler. L'adolescent de 15 ans n'aura plus qu'une obsession, être Schwarzenegger, c'est-à-dire l'homme le plus viril du monde, et qui forcément séduira les filles. Avant d'en venir à votre personnage et au texte, hein, qu'est-ce que vous avez vu dans ce film? Alors, je précise que vous êtes né en 97, donc vous deviez vraiment être très très petit. Qu'est-ce que c'est que ce film pour vous? C'est simplement une balise viriliste hein, parmi d'autres?
Alors oui, quand le film est sorti, j'avais moins 15 ans, ce qui pose un petit problème. Oui, c'est un film anachronique. Mais en fait, quand on prend les films de super-héros d'aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, avec des effets spéciaux plus valorisants et plus intéressants. Quand j'ai vu ce film, je l'ai trouvé passionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les musiques. J'ai pensé à Ben-Hur, évidemment. Et je me suis dit quand même... je pensais qu'on en était revenu. Et 40 ans plus tard, j'ai constaté que les films de super-héros musclés virils étaient toujours les mêmes. Et peut-être même que c'était pire. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai choisi Conan le Barbare. Parce qu'à la base, j'avais le choix entre plusieurs films, mais lui, quand même...
Vous aviez largement le choix, sûrement.
Très largement. Mais j'ai préféré Conan le Barbare pour Schwarzenegger, parce que dans ma famille, chez mes parents que j'embrasse, et surtout chez mon père, c'était un exemple de réussite à l'américaine. Et il nous disait toujours, moi et ma sœur, devenez comme Schwarzenegger, soyez Schwarzenegger. Bon, ça n'a pas trop marché, mais au moins j'ai vu ces films et je les ai trouvés bien.
Alors Créatine, ça commence comme ça. Avant j'étais un bel homme, j'étais beau, je ne mens pas. Avant j'avais de quoi plaire aux femmes, aux hommes, aux chiens, à la police, aux pompiers, aux militaires, à tous les hommes de la terre. Personne ne pouvait me regarder droit dans les yeux longtemps. J'avais des muscles, j'avais plein de muscles partout et même à des endroits où tu ne savais même pas qu'il y avait des muscles. En tout cas, il n'y avait pas un muscle que je n'avais pas bossé. J'étais huilée partout. Partout je sentais l'huile toute neuve, je me lavais à l'huile d'olive et même je pouvais la boire à la bouteille. Et je sentais fort, je sentais le vrai homme tout le temps dans la rue par exemple. Partout, je ne connais personne avec autant de muscles que moi, personne d'aussi bien ou même d'aussi accompli. J'avais accompli l'objectif vital de tous les hommes. J'avais plus de muscles que tout le monde réuni. Les mascus sur YouTube, les tutos de musculation, les salles, hein, quelle intuition, quelle question de départ vous ont fait partir dans cet univers-là, Victor Malzac?
Eh bien, évidemment, la question principale, elle est politique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie comme tissu de sens, comme symbolique dans la société. Et c'est vrai que moi, j'ai pas de problème avec les gens qui sont musclés, j'ai un problème avec les gens qui le sont pour des raisons qui les dépassent et qui sont problématiques, dangereuses. Quand j'ai vu ça, en fait, c'était bizarre parce que ces vidéos-là, on tombe dessus par hasard. Et à les écouter, tout le monde doit être unique et génial, mais... Tout le monde fait le même programme et tout le monde fait la même chose pour devenir un archétype. Et je trouvais ça étonnant que dans une société capitaliste, on veuille tous se conformer à un archétype plutôt que de profiter de certaines singularités. J'ai trouvé ce paradoxe à la fois inquiétant, mais aussi très drôle. Et j'ai regardé ces vidéos de prise au sérieux tout le temps, parce que c'est des gens qui se prennent extrêmement au sérieux. C'est évidemment devenu en quelques semaines des mèmes. Hein. La moitié des mèmes sur Internet est fondée sur... exagération viriliste. Et moi, c'est plutôt à partir des mèmes que j'ai commencé à écrire ce livre. Et c'est aussi, il faut le dire, Créatine est une excroissance d'un recueil de poésie que j'ai écrit juste avant, qui s'appelle Vacances, où je parlais de mon rapport à la musculation sur les plages. Où je faisais du sport pour être beau à la plage, évidemment pas à outrance, mais et je me disais, il y a quand même peut-être quelque chose en moi, un résidu de virilité que j'ai pas encore gratté avec le couteau, quoi.
Alors là, ça gratte, en effet. Évidemment, il y a des produits pour développer la masse musculaire, des doses de testostérone, mais aussi du porno en ligne à haute dose, de la masturbation, beaucoup. Des questions d'érection, des questions de taille, un coach très beau, très musclé. Et puis la salle, hein, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce décor de Muscle 3000, ce que cet espace social-là, qu'est la salle de sport? Qu'est-ce qui vous permet de dire?
Eh bien, en fait, moi, je le vois plutôt d'un point de vue littéraire. J'ai construit le livre comme une parodie, en fait, de la quête du Graal ou de tous les soit des romans d'apprentissage, soit des épopées où vous avez un adjuvant, donc un ami qui vous aide. Donc là, c'est le coach. Vous avez une salle, une antichambre, table ronde. Donc là, c'est la salle de sport. Et en fait, mon personnage, quand il est dans la salle, il rencontre des hommes plus beaux que lui. Donc, attirance érotique, sexuelle. Et il fait pas tant de sport que ça. En réalité, alors là, je gâche un peu le plaisir de lecture, je donne une des clés, mais en fait, le sport est un prétexte général pour se voir, pour se regarder, pour se toucher, pour s'aimer les uns les autres. Et c'est ça que je trouvais génial, c'est que finalement, mon personnage, les séances de sport, soit il les fait dans sa chambre, tout seul, soit il va à la salle, mais quand il y va, il parle tellement avec ses potes, il voit tellement les autres gars, qu'il oublie de faire les séances. Alors qu'il va à la salle 10 fois par jour. Il a quand même dit ça. Il y a un moment où il dit ça, je vais 10 fois par jour à la salle. Et on sait même plus pourquoi il y va. C'est comme des types qui errent dans les parcs, c'est pour parler aux gens, c'est pour se sentir un peu exister, quoi.
C'est un personnage, en effet, qui est assez fragile et obsessionnel, frustré et en colère assez rapidement, qui dit « c'est ta nécessité, c'est ta mission ». Et alors je me disais « ça, tu seras un tueur, une machine, tu surpasseras tous les hommes et tu feras l'amour plein de fois ». Et qui dit aussi qu'il est devenu ce monstre moi. À quelle place est-ce que vous vous tenez, vous, celui qui écrit? Est-ce qu'il vous fallait malgré tout l'aimer un peu, ce personnage?
Alors, en fait, évidemment, c'est totalement une fiction et je revendique l'intérêt de la fiction. Donc, c'est assez difficile pour moi d'écrire parce que je dois mettre dans la tête de ce type et penser comme lui, du moins quand j'écris, et donc me forcer, en quelque sorte, me forcer à manger du Conan tout le temps. Et finir par croire à ce qu'il dit, parce que sinon la logique tombe à l'eau, sinon il y a un discours moral, il y a un jugement de valeur sur mon personnage. Et là, ça aurait pas marché, parce que j'aurais juste écrit un livre pour dire « oulala, c'est pas bien les salles ». Mais c'est pas le but du livre, le but c'est de se mettre dans l'expérience de quelqu'un qui vit grâce à la salle. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, parce que je dois, moi, dans ma routine d'écriture, créer des rituels, des musiques, des ambiances... faire de l'exercice aussi, je suis allé à la salle pour sentir l'effet un petit peu, pour pouvoir donner le meilleur de ce que peut penser un personnage comme ça, et les logiques comme ça, structurelles, qui mènent à des raisonnements idiots, sont quand même fondées de base par des trucs affectifs, je pense. Et c'est un personnage qui est horriblement frustré, tout le temps seul, qui n'arrive pas à communiquer avec les autres en général, que ce soit les parents, les gens dans les bars, les femmes évidemment. Donc ça part d'un manque affectif en réalité, plus que d'un raisonnement plaqué. En fait, il prend des raisonnements et il les hybride avec sa pensée de base. Et donc, je pense qu'on peut éprouver de la tendresse tout en comprenant que le mécanisme n'est pas bon.
C'est quoi sa pensée de base ?
Eh bien, c'est le manque d'amour, je pense, en général. C'est un personnage qui n'est pas du tout aimé et qui n'est pas comblé, en général, qui s'ennuie. Il n'y a pas de sens à la vie, il le dit lui-même.
Vous diriez que c'est un personnage tragique ?
Oui, plus ou moins. Une colère d'Achille, un personnage vide qui veut dépasser un peu son propre corps, qui veut aller un peu plus loin que ses limites. Je trouve ça assez beau, finalement, même si ça finit mal.
Faut pas le dire. Est-ce que vous voulez bien nous en lire un extrait, Victor
bien
Balzac?
Je vais lire un bout qui me plaît particulièrement, où il s'agit de viande. car c'est comme ça que je suis allé pour la première fois dans une boucherie pour acheter de la viande. Et je suis allé dans la boucherie et j'ai vu le boucher. Et j'ai vu son corps au boucher, son corps énorme et gracieux en même temps, qui fait peur, qui sent mauvais et qui pue. Et il avait quelque chose de touchant, le boucher, car il avait du sang sur les mains. Et ça me faisait quelque chose de savoir que le boucher avait touché du sang 2 minutes avant que j'entre dans la boucherie. Et quand je l'ai vu, j'ai pensé, ça c'est un vrai homme, ça c'est quelqu'un de vrai. Il mange de la viande, donc il est en bonne santé. Et moi je voulais être le boucher, je voulais ses mains, son sang. Il devait crier dans la forêt, le boucher, ça devait être un bûcheron le week-end. Et moi aussi, je voulais ce corps. Alors j'ai sympathisé avec lui, je lui ai demandé ce qui était bon pour le corps, je lui ai expliqué mon objectif, et alors là, il m'a donné des morceaux à goûter de viande, des morceaux gratuits. Et j'ai goûté les morceaux gratuits, j'ai tout fait cuire à la poêle chez moi, avec du beurre, de l'huile d'olive et du coca, et c'était bon. C'était bon, c'était très bon ma façon de cuisiner la viande. Enfin j'avais la viande, toute la viande. Et alors j'ai goûté tous les types de viande, j'ai tout mangé la viande, le cheval, le poulet, le canard et les frites. Et je mangeais tout ce qui se mange, le porc et le canard, et les entrecôtes de bœuf et les crevettes, le cordon bleu, le lapin, le veau, le mouton, l'agneau, le foie de veau, les rognons de veau, les tranches de veau, le saucisson de veau, le pâté en croûte au canard ou celui à la viande des grisons, le poulet bleu, blanc, rouge, les pieds de porc et la sauce gribiche, et la gardiane de taureau, et le bourguignon. Et à l'époque, comme ça, je faisais d'énormes courses qui coûtaient très cher et qui me coûtaient au moins 500 euros par semaine.
Merci. Le corps, Victor Malzac, comme matériau de travail ou comme matériau à mettre en forme, j'imagine ça a quelque chose qui a à faire avec l'écriture.
Oui, déjà dans la disposition dans laquelle je dois écrire, je suis obligé d'impliquer mon corps. Ce n'est pas un esprit qui flotte comme ça. Quand j'écris, j'écris avec de la musique et donc j'ai tendance à beaucoup bouger, à remuer, à parler tout seul. Ça déborde.
Alors, faire forme, justement, vous avez demandé un extrait de film. On l'écoute.
Il y a un truc qui va pas ?
Non, non, mon commandant, on fait connaissance. On l'emmènera voir les camions après.
Je vais vous donner un tuyau, vous prenez pas, vous faites comme vous voulez. Voilà, le sapeur Legrand, c'est mon fils. Moi, je suis quoi pour vous ? Je suis Dieu. Donc le sapeur Legrand, c'est pas simplement votre frère, c'est Jésus. Et Jésus, il parlera quand il aura quelque chose à nous dire. Et nous, on l'écoutera, compris ? Oh ! Compris ?
Oui, mon commandant.
Un court extrait de Titane, le film de Julie Ducournau, Palme d'Or 2021. Qu'est-ce que vous vouliez nous faire entendre, Victor Malzac ?
Dans ce film, en fait, moi j'aime beaucoup déjà la distinction du genre. Je trouve ça important. Et puis, ce film, il y a une scène incroyable où il y a beaucoup de tous les pompiers qui font la fête. Et là, ils sont tous torse nus et ils se tapent entre eux et ils se regardent. Et on peut pas s'empêcher d'y voir un érotisme latent, mais qui s'ignore aussi parce que tous ces hommes-là... passent leur temps à se traiter d'homo, je vais pas dire les insultes en ligne, ça m'intéresse pas, mais je trouvais ce paradoxe génial. Et j'ai beaucoup pensé à Titane quand j'écrivais Créatine, c'est un film qui m'a énormément plu.
L'idée de devenir une sorte de machine de guerre, si on reprend les termes du héros, du personnage de Créatine, les questions de poids, de taille, beaucoup, questions de taille, d'échelle, de mesure, ce qui donne d'ailleurs lieu à quelques phrases cocasses. Ça, c'est une chose, mais c'est aussi un roman. Alors, c'est aussi un roman qui est très drôle, mais c'est aussi un roman de la honte, des hontes, de l'échec. Je ne vais pas les lister non plus, mais il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui vous intéresse tellement dans cette notion, dans cette émotion qu'est la honte ? C'est parce que c'est une faiseuse d'histoire ?
Oui, oui. En fait, la plupart, en général, quand on fait de la littérature ou qu'on raconte une histoire, on tente de raconter des exploits. Et alors moi, je voulais pas forcément raconter des exploits parce que on ne crée pas un sentiment d'empathie lorsqu'on ne fait que se peindre de profil. Comme disait Rousseau, on peut pas juste se peindre de profil et dire que nos qualités, il faut aussi jouer le jeu, jouer à la honte. Sinon, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de prise de risque. Et j'aime l'idée que le livre n'est pas forcément là pour uniquement plaire ou parler de bons sentiments. Je ne fais que peindre un portrait moral de moi ou du personnage qui nous met en valeur. Et la littérature n'est pas forcément là, à mon sens, pour uniquement mettre des choses en valeur. Elle est là pour dénoncer d'autres choses et donc les montrer sous tous leurs aspects, donc leur aspect honteux aussi.
Poésie et ainsi de suite, Manu Farine.
Et aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige, à la réalisation June Loper avec la collaboration de Virginie Leduo et avec nous le poète Victor et écrivain Victor Malzac qui signe Créatine aux éditions Gallimard dans la collection Scribe. Un premier roman en forme de monologue débordant et soufflant, écrit selon un protocole assez serré, routinier en tout cas, une table toujours la même, une playlist préalable pour donner le rythme, les rythmes, et dans la playlist de Créatine, il y avait ça. De Sébastien Tellier, extrait de l'album Sexuality, c'était en 2008. Là aussi, vous étiez tout petit. Quelle impulsion, quel rythme vous a-t-il donné?
Alors, cet album-là, je le trouve magnifique parce que, justement, on entend la voix de Tellier et cette voix un peu fragile, en fait. J'aime beaucoup cette fragilité qu'on entend et ces bruits de bouche. Là, on sent bien quand on écoute cet album. Et c'est érotique, tout simplement aussi.
Tout simplement. Alors Sébastien Tellier, mais pas seulement, aussi de la techno allemande énervée, aussi des tas d'autres choses. Alors je ne sais pas si vous teniez déjà votre sujet musclé, votre narration, quand vous avez établi cette playlist. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle disait, cette playlist, de ce que vous cherchiez, de ce que vous étiez en train de chercher?
Eh bien, il fallait un équilibre entre deux parties. Il fallait des parties énervées, donc mouvementé, rythmique, surtout pour produire du texte en quantité, et après des parties douces, lascives, calmes, pour pouvoir me concentrer et réduire le texte. Et moi j'ai toujours fait comme ça, pas que pour Créatine, pour les textes précédents.
Donc en fait il y a deux playlists, il y en a une pour le premier jet et une pour le second.
En fait il y a la même playlist pour les deux, mais c'est juste soit je les mets dans un ordre précis, donc j'écoute que les moments énervés ou que les moments calmes, soit je mélange, et quand c'est calme je me force à calmer le jeu, à retravailler. C'est aussi des histoires d'humeur. Hein. Si je me lève le matin et que je me dis j'ai de l'énergie, et ben là je vais mettre les Kraftwerk, Aphex Twin, enfin des trucs comme ça qui tapent très fort, et je vais pouvoir produire du texte. Et si d'autres fois je suis fatigué, ben non, là je mets juste mon petit ronron. Quoi.
Et est-ce que établir une playlist, est-ce que c'est déjà écrire?
À mon sens, oui. Alors après, il n'y a pas forcément de mots. Mais c'est déjà une impulsion, une émotion esthétique qui me traverse et que je voudrais retranscrire, moi, dans le médium que j'utilise et que je sais à peu près faire, c'est-à-dire l'écriture.
Est-ce que alors le rythme, ça se mettrait à l'intérieur de l'écriture ou par-dessus? Ou dit autrement, est-ce que... alors, si l'écriture, c'est du rythme, mais est-ce que tout est rythme pour vous?
Oui, après, tout est rythme, mais ça signifie pas qu'il faut pas retravailler pour être communicable. Parce que moi, quand j'écris la première phase, ça peut potentiellement être illisible. Parce que ces rythmes, il n'y a que moi qui les entends. Il n'y a pas... Le public, le lectorat n'entend pas ce que j'entends. Alors, ils peuvent toujours écouter après coup. Si je dis sur un réseau social que j'ai écouté Sébastien Tellier, ou R, ou je ne sais quoi. Mais il faut après tout retravailler pour que ce soit aussi... Être rythmé, c'est une chose, mais il faut aussi que ce soit lisible, tout simplement.
À propos de rythme, on vous écoute. Hein, c'était au Festival Actoral à Marseille, en septembre 2022. Un extrait de Dans l'herbe, qui est toujours d'ailleurs un recueil de poèmes paru chez Chêne Éditeur. On vous écoute.
Bonjour, c'est moi. Moi. Moi, j'arrache des mottes d'herbe, lent et mou, sans parler, sans un mot. Moi, mon corps raté, ne tiendra pas le siècle. J'attends. J'attends, je dis bonjour. 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 Mon corps, mon ventre, j'ai tout raté. Je suis lent. Je suis dans le parc. Je tire un peu la pelouse grasse, comme une mère, un forcené. J'arrache l'herbe. Bonjour, j'attends. J'arrache et je m'abîme un peu les ongles un peu et je peux tout perdre avec ses bras, ses jambes, je peux tout rater. Oui, c'est moi. Bonjour, c'est moi. Je suis un automate en moins solide, un rhumatisme, un mort à peine. Ah, et je dévore la pelouse en rigolant.
On entendrait presque un peu la musique de Tarkos.
Oui, c'est vrai.
Pour vous entendre. Dans vos poèmes, souvent la langue bégaye, où elle hésite, où elle prend son temps, même si elle va très vite. Hein. C'est un peu une sorte de, une espèce de crête un peu étrange. C'est à la fois une sorte de flux interrompu, et puis une langue comme empêchée, souvent, que ce soit dans vos poèmes et dans Créatine aussi. Je crois pas que vous fassiez tellement la distinction d'ailleurs entre la question du roman et celle des poèmes. Ça dit quelque chose de vous ou du rapport au langage aujourd'hui? Cette idée d'empêchement qu'on entend.
En fait,
ou c'est l'oralité.
Alors il y a l'oralité évidemment, c'est-à-dire que moi j'aime bien l'idée de retranscrire nos hésitations, nos doutes. On parlait de honte tout à l'heure. La honte est aussi là dans l'empêchement de la parole. Par exemple, pour annoncer une mauvaise nouvelle ou ce genre de choses, on va beaucoup plus hésiter, beaucoup plus mettre des silences. Et ça m'intéresse parce que c'est très parlant finalement, c'est très expressif. Moi, j'aime bien cette expressivité-là. Il y a autre chose que j'aime bien, c'est que vous n'ignorez pas qu'on est quand même submergé par des flux de paroles incessants, tout le temps, on entend des paroles tout le temps, et le manque de sens qu'on leur trouve, moi je trouve ça assez joli, ça prouve qu'on veut ne pas dire certaines vérités essentielles. J'aime bien cette idée-là de louvoyer, de passer à côté de l'essentiel en parlant le plus possible. C'est la meilleure expression pour moi de la gêne et de la honte, et c'est ce que je recherche quand j'écris.
Alors parler le plus possible, ou même écrire le plus possible, parce que c'est ce qu'on comprenait dans votre façon d'écrire, c'est-à-dire ce premier jet ininterrompu dans un premier temps, et puis ensuite une façon, je ne sais pas, peut-être de réduire le texte, ou de le calmer un peu, ou de, je crois même que vous employez parfois le terme d'harmoniser. J'imagine que la deuxième partie s'adresse davantage au lecteur, la deuxième étape de travail d'une certaine façon s'adresse davantage au lecteur. Est-ce que pour vous il y a autant de plaisir au travail des deux, où la jouissance à écrire, c'est la première, c'est le flux?
Alors en fait, c'est pas... moi, je prends du plaisir toujours, sinon j'écrirais pas. Je pense que le plaisir est important quand on écrit, sinon c'est pas la peine, quoi.
Mais est-ce que ce sont deux mouvements d'écriture contraires?
Alors je dirais pas qu'ils sont contraires, mais ils touchent pas les mêmes zones. C'est-à-dire que la première partie du plaisir, quand j'accumule un flux qui ne sera pas fait pour être publié, c'est un plaisir que j'ai envie de dire intime, c'est-à-dire c'est... Il n'y a que moi et peut-être deux, trois proches qui pourront lire ça, voir ça. Et au moment où je le rédige, le plaisir, la dopamine qui me submerge m'appartient. Après, elle n'est pas communicable. J'avais déjà dit aussi une fois que c'était un peu comme un onanisme, comme une masturbation. Ça me concerne moi, c'est un plaisir personnel. Maintenant, il n'est pas communiqué forcément puisqu'il se fait dans une intimité. Et après, quand on publie des livres pour être vendus à des gens, il faut prendre en compte que le fait que les gens achètent le livre, prennent leur temps pour le lire et donc considérer la présence de l'autre dans le texte. Sinon, je peux pas publier immédiatement les textes que j'ai écrits sous le coup de la jouissance, sinon le plaisir général s'estompe. Et donc, c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire que la deuxième partie du plaisir, c'est un plaisir de transmission, de générosité aussi à l'égard des autres.
Quel lecteur est-ce que vous projetez ? Ou quel lecteur est-ce que vous fabriquez ?
Ah, moi, j'aime bien malmener le lectorat. Et donc, j'anticipe les réactions des gens. J'aime bien faire rire les gens ou les mettre mal à l'aise. Et surtout, par exemple, un de mes auteurs préférés, c'est Thomas Bernhardt, ou Elfriede Jelinek aussi, c'est à peu près pareil pour moi. Ces deux auteurs et autrices sont géniaux parce que ils font pas de paragraphes. Tout est dans un flux continuel. Et a priori, c'est la pire chose à faire. C'est-à-dire que quand vous voyez un truc sans paragraphe, vous vous dites, mais quel enfer! Dans quoi je m'embarque? Mais une fois que vous êtes embarqué, ça s'arrête plus. Vous pouvez plus revenir dans le monde normal, c'est plus possible. Le monde a changé après. Et moi, j'aime ce sentiment-là.
C'est ce que vous appelez un peu des auteurs méchants, une littérature méchante, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument bouleverser les gens, dire n'importe quoi ou quoi, mais on est dans un jeu, une situation de jeu, il y a un pacte qui est scellé avec la personne qui nous lit, et il faut pouvoir tricher avec ça, il faut pouvoir faire des petits signes de la main. Ça peut être des signes sympas, ça peut être des signes pas sympas, mais il faut qu'à la fin, on en tire du plaisir. Un film d'horreur, c'est horrible, mais on sort de là avec une dose de plaisir immense. Du moins, moi, en tout cas. Et je fais ce pari-là.
C'est ce qui vous a amené aussi vers Eugène Savitskaya ?
Oui, Eugène
Savitskaya. À qui vous consacrez
je consacre ma thèse sur Eugène Savitskaya et sur les animaux dans son œuvre. Je trouve que c'est un auteur particulièrement touchant, parce qu'il fait exactement ça. C'est-à-dire que c'est tellement... Mais lui, pour le coup, ça ne s'arrête jamais. C'est un flux qui ne s'arrête jamais, même d'un livre à l'autre. On a l'impression parfois que le flux dure pendant 10 ans, 5, 6 livres. Vous prenez Les morts sans de bon, La disparition de maman, ces deux livres l'un après l'autre. On a l'impression que c'est la même unité d'ensemble. Mais c'est n'importe quoi. Et c'est ça que j'aime. C'est que quand je lis ça, c'est l'inverse de ce à quoi je m'attendais.
C'est curieux parce que cette idée du flux qui ne s'arrête jamais, ça me fait penser aussi parce que vous avez aussi beaucoup parlé de ce qui vous intéressait avant de découvrir la littérature réellement, c'est-à-dire vers 18-19 ans en prépa, où c'est vraiment là que vous découvrez véritablement la littérature. Et l'idée de ce flux qui ne s'arrête jamais, après tout, vous avez fait du skate pendant très longtemps, vous avez été gamer aussi, vous avez beaucoup, beaucoup pratiqué les jeux vidéo et l'idée est un peu aussi la même, d'une espèce de flux ininterrompu. Il est là, votre mouvement, et c'est ça qui relie l'ensemble de toutes vos obsessions, parce que tout ça fonctionne par obsession successive, j'imagine.
Oui, ça fonctionne par obsession. Un truc m'obsède, j'en tire le meilleur, ou au moins ce qui me touche le plus. Et des fois, ça s'arrête. Je n'ai pas l'impression que la littérature s'arrêtera, mais on verra. Concernant le skate, c'est parfait parce que c'est sportif. Donc, il y a une implication du corps, donc des émotions, de la douleur aussi quand on tombe. C'est rythmé. Il y a des bruits, il y a des élans. Et en même temps, c'est dans le silence total.
Créatine, apparue aux éditions Gallimard dans la collection Scribe. Victor Malzac, merci infiniment d'être venu nous en parler. Poésie, ainsi de suite, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission en partenariat avec La Croix L'Hebdo que vous pouvez podcaster et partager sur le site de Radio France. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bon après-midi à toutes et à tous.